Quand on parle de bad buzz sur Internet, la plupart du temps, on imagine une tempête qui finit par s'essouffler. Une figure publique fait une erreur, subit la vague de critiques, puis, avec le temps, les gens passent à autre chose. Mais ce qui s'est passé avec Lauren Hurst est différent. Très différent. Dans l'épisode précédent, on a vu comment Next Gen a implosé sous le poids des accusations. On a assisté à la chute de son image publique, à sa tentative ratée de gérer la crise, et puis, du jour au lendemain, plus rien, plus d'écho. Lauren n'a pas seulement quitté LinkedIn, elle a disparu, littéralement. Alors encore une fois, soyons clairs, en 2025, il est pratiquement impossible de disparaître totalement d'Internet. Il reste normalement toujours des traces de quelqu'un, un nom, une adresse, des photos. Il y a aussi des backups, des bases de données qui enregistrent tout, les sites comme Wayback qui archivent automatiquement les pages web, etc. Mais dans le cas de Lauren, c'est comme si quelqu'un s'était assuré que ces traces soient éliminées une à une. J'ai donc voulu comprendre, comment une personne peut-elle disparaître aussi vite et aussi proprement? Est-ce que c'est Lauren qui a voulu tout arrêter ou est-ce que c'est quelqu'un qui a voulu la faire disparaître? Et surtout, où est-elle aujourd'hui? Pour tenter de répondre à ces questions, il fallait que je parle à quelqu'un qui connaît les coulisses de ce genre de disparition. Quelqu'un dont le métier est justement de traquer ceux qui ne veulent pas être retrouvés. Un spécialiste du skip tracing, Pascal Genet. Cet expert en recherche de personnes disparues traque des fraudeurs, des débiteurs en fuite ou des identités volées. Et il m'a expliqué comment on peut, en 2025, tenter de disparaître du web. Mais avant ça, on va d'abord analyser ce que j'ai retrouvé. Et surtout, ce que je n'ai pas retrouvé. Je m'appelle Alexandre et vous écoutez le mystère Lauren Hurst, le podcast qui explore l'ascension fulgurante et la chute brutale d'une adolescente qui a marqué le LinkedIn australien de son empreinte avant d'être effacée de l'histoire du jour au lendemain. Avant de plonger dans le cœur du sujet, je vais vous expliquer rapidement les outils que j'ai utilisés pour essayer de retrouver les traces de Lauren. Parce que, je vous le rappelle, je suis pas un expert du tout en cyber-enquête, loin de là. Et c'est pas du tout mon taf, même si je m'étais intéressé un temps à l'OSINT, donc le renseignement open source pour celles et ceux qui ne connaissent pas le terme. Je me suis donc appuyé sur des méthodes accessibles, celles que n'importe qui pourrait utiliser, à condition d'avoir beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup de patience. Donc parmi les outils utilisés, on peut citer Wayback Machine, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui permet de retrouver les anciennes versions des pages web disparues. Le cache Google, c'est une bonne aide également, pour voir si des pages supprimées avaient encore une copie temporaire. On a également des outils spécialisés en recherche d'infos, IntelX, Pokeo, Pipel, Hunter.io, pour tenter de retrouver des traces d'anciens comptes ou des adresses associées à Lauren Hurst. On a des moteurs de recherche alternatifs, DuckDuckGo, Yandex, Quant, qui remontent parfois des résultats ignorés par Google. Et on a enfin les forums et Reddit, pour voir si quelqu'un, quelque part, avait déjà parlé de cette disparition et laisser des indices. Là aussi, j'en ai parlé plusieurs fois, je reviens pas forcément dessus et je détaille pas non plus beaucoup. Mais peut-être que le plus étrange dans cette disparition, ce n'est pas tant ce que j'ai trouvé sur Lauren, mais ce que je n'ai pas trouvé. Parce que même quand quelqu'un veut disparaître d'Internet, il reste toujours des indices. Toujours. Premièrement, quand une personne ferme ses comptes, on retrouve en général des traces sur des plateformes comme Twitter, Facebook, Instagram, parce que même s'ils sont vides, même s'ils ont été désactivés, il y a souvent des mentions, des partages, des liens morts. Ici, il n'y a rien. Ce qui m'a frappé pour LinkedIn, par exemple, c'est que même les posts où elle était mentionnée avaient disparu. Ça, c'est quand même beaucoup plus rare. Et enfin, pour être honnête totalement avec vous, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Normalement, si vous supprimez votre profil, les gens qui vous ont tagué, votre nom, restent visibles, simplement sous forme de texte et sans lien cliquable dans le post d'origine. Or, ici, il n'y avait même plus de posts. Très bizarre. Et hormis son compte LinkedIn disparu, il n'y a aucun compte sous son nom sur d'autres plateformes. Pas de Twitter inactif, enfin on dit X maintenant, on s'en fout. Pas de TikTok, pas d'Instagram fantôme, pas de trace d'un Facebook oublié, rien. Bref, LinkedIn a bien effacé son compte, aucun doute là-dessus. Il n'apparaît plus nulle part, ni en cache, ni dans des résultats indirects. Et jusque-là, rien d'étonnant. Si un compte est supprimé et que la personne demande expressément à être déréférencée, LinkedIn n'a aucun intérêt à conserver quoi que ce soit. Second constat, Lauren aurait dû apparaître dans d'autres médias, sur d'autres plateformes, vu qu'un certain nombre de médias lui ont consacré des interviews, des articles de presse. Mais là encore, rien ou presque. Les articles, ils ont été dépubliés, ce qui est déjà inhabituel, hein, parce que les médias n'ont en général aucun intérêt à supprimer des articles, sauf en cas de plainte légale. Vous vous souvenez de Charlotte dans l'épisode 2 ? Je l'ai recontactée plus tard pour savoir si elle avait pu obtenir davantage de détails sur la suppression de son article dans Les Échos, justement. Et elle m'a répondu très brièvement
« Nous avons tiré cet article à la demande d'une tierce partie. Je ne peux malheureusement pas t'en dire plus. »
Ok, cool. Une demande d'une tierce partie. Mais qui exactement ? Les parents de Lorraine ? Gavin Matthews et Sophia Ling, les fondateurs de NextGen ? Un avocat qui travaillait pour quelqu'un d'autre ? Dernier point troublant, l'agence NextGen elle-même. Même après un scandale, une entreprise, elle laisse des traces. Des entrées dans des bases de données business, des références sur des annuaires professionnels, j'en sais rien, mais en tout cas, quelques traces au moins. Or, là aussi, tout a été supprimé. À ce stade, on peut pas vraiment dire que Lorraine a juste quitté Internet. Non, elle a simplement et purement été effacée de notre réalité. Il y avait une vraie volonté, soit de sa part, soit de celle de son entourage, de supprimer chaque référence à son existence publique. Mais sa disparition avait été trop propre, trop efficace et surtout trop rapide. Comment est-ce que l'on peut faire pour disparaître aussi vite ? Quelles ressources il faut mobiliser pour réussir cet objectif ? J'ai demandé à Charlotte si elle connaissait pas quelqu'un spécialisé là-dedans, un skip tracer. Les skip tracers, c'est des spécialistes de la traque numérique et physique. Des enquêteurs qui travaillent pour des entreprises privées, des banques, des agences gouvernementales ou voire hein, aussi des détectives. Leur métier, c'est de retrouver ceux qui ne veulent pas être retrouvés. Souvent des débiteurs en fuite, des fraudeurs ou parfois simplement juste des gens qui ont décidé de disparaître. Et Charlotte, elle m'a donné un nom. Pascal Genet. Pascal est français, mais il travaille à Londres dans une agence spécialisée en skip tracing international. C'est un ancien analyste en cybersécurité et il traque aujourd'hui les personnes qui tentent d'échapper au système. Moi, je voulais savoir ce qu'il pensait de la disparition de Lauren Hurst. Je l'ai contacté directement par téléphone et il a accepté de me parler en visio. Voici ce qu'il m'a expliqué. Salut Pascal, merci d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir.
Alors, pour qu'on comprenne bien d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui, je vais retracer rapidement ton parcours. Et surtout, tu me corriges si je me trompe. Hein.
Oui, ok.
Alors, tu es français, mais tu vis à Londres depuis une dizaine d'années et à l'origine, tu as commencé ta carrière dans la cybersécurité.
Oui.
De ce que j'ai compris hein, de nos échanges, tu as bossé pour plusieurs entreprises, d'abord en France, puis au Royaume-Uni, où tu étais spécialisé dans la gestion des fuites de données et la protection des identités numériques.
Oui.
Donc, pendant des années, ton boulot, c'était plutôt de protéger les gens, hein, de sécuriser leur présence en ligne et finalement éviter qu'ils se fassent pirater ou traquer. C'est bien ça ?
Oui, mon boulot consistait à aider des entreprises, mais aussi parfois des particuliers, à limiter leur exposition numérique, à sécuriser leur accès et surtout à comprendre comment leurs données personnelles étaient exploitées à leur insu. C'est affolant tout ce qu'on peut retrouver sur quelqu'un avec les bons outils.
Et à un moment, t'es passé de la protection à la traque. Et aujourd'hui, tu es ce qu'on appelle un skip tracer. Tu travailles pour une agence privée à Londres et ton job, c'est l'exact inverse finalement de ce que tu faisais, avant. Retrouver des gens, traquer leurs pistes sur Internet, en gros, identifier ceux qui veulent disparaître. Quoi.
Oui, en réalité, c'était pas un virage si radical que ça. Le point commun entre les deux métiers, c'est la donnée. Avant, je conseillais mes clients sur comment se rendre invisible. Aujourd'hui, je suis payé pour retrouver ceux qui ont essayé de le devenir.
Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir skip tracer ? Parce que c'est un métier un peu obscur, hein, on n'en parle pas beaucoup.
Oui, c'est vrai que la plupart des gens n'ont jamais entendu parler du skip tracing, alors que c'est une pratique qui existe depuis longtemps. Historiquement, ça vient des États-Unis. Le terme « skip » fait référence à quelqu'un qui saute ses obligations. Là, on parle souvent des débiteurs qui disparaissent pour éviter de payer leurs dettes. Mais aujourd'hui, le skip tracing, ça couvre un spectre bien plus large. Je suppose qu'on va le voir ensemble après, je ne vais pas forcément détailler. Mais en tout cas, je raccroche les wagons. Ce qui m'a poussé à faire ça, je crois que c'est une accumulation de choses. Quand j'étais dans la cybersécurité, j'ai vu à quel point on pouvait contrôler l'image et la présence numérique d'une personne. Certains de mes clients étaient littéralement terrifiés à l'idée d'être exposés, mais vraiment terrifiés. Et puis un jour, j'ai bossé sur un dossier où une entreprise cherchait à retrouver un ancien employé qui avait pris la fuite avec des données sensibles. Et en analysant les traces qu'il a laissées, j'ai pu le localiser en 3 jours, alors qu'il était persuadé d'avoir disparu. j'ai trouvé ce travail d'enquêteur plutôt plaisant pour le coup, parce que contrairement à ce qu'on imagine, disparaître totalement, c'est effectivement extrêmement compliqué. Même quelqu'un qui pense avoir tout effacé laisse toujours des miettes derrière lui. Le retrouver, c'est généralement une question de patience et de ressources.
Ouais, alors justement, c'est ce que je voulais voir avec toi. Aujourd'hui, on parle souvent de droit à l'oubli, de suppression de données, etc. Et on a l'impression que c'est devenu plus facile de disparaître. Mais toi, qui es du côté de ceux qui traquent les disparus, justement, qu'est-ce que ça signifie vraiment disparaître d'Internet ?
Alors, la première chose à comprendre, c'est qu'il y a une différence entre ne plus être visible et ne plus exister numériquement. Quand une personne veut disparaître d'Internet, elle peut suivre plusieurs stratégies. La plus basique, c'est simplement désactiver ou supprimer ses comptes visibles, effacer ses posts, fermer ses réseaux sociaux. C'est ce que fait n'importe qui après un bad buzz, par exemple. Mais c'est aussi la stratégie la plus inefficace, parce que même si un compte est supprimé, il reste des traces, des mentions, des captures d'écran, des archives, etc. Ensuite, il y a la suppression proactive des données personnelles, et c'est là où les choses deviennent un peu plus techniques. On peut envoyer des requêtes aux grandes plateformes, Google, LinkedIn, Facebook, pour demander la suppression des résultats non concernants. Avec le RGPD en Europe ou le Privacy Act en Australie qui fonctionne un peu de la même façon, on peut faire retirer certains contenus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent complètement. Les entreprises gardent souvent des archives internes et certaines bases de données, elles ne sont jamais complètement purgées. Enfin, la méthode la plus avancée, celle qu'utilisent les personnes qui veulent vraiment disparaître, consiste à casser tous les liens entre leur identité VL et leur présence numérique. Ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien, ça veut dire ne plus utiliser d'adresse mail liée à son vrai nom, supprimer les noms de domaine associés à une activité passée, se débarrasser des bases de données, des data brokers, utiliser des services qui effacent activement des informations sur demande, comme Delete Me, etc. Mais, et c'est là que ça devient techniquement compliqué et très coûteux, parce que certaines personnes vont jusqu'à changer de nom légalement, se créer de nouvelles identités numériques, voire même modifier leur apparence en ligne.
Ok, alors déjà, un grand merci, parce que c'est super dense, je trouve ça super. On va essayer de creuser ça ensemble pour essayer de déterminer ce qu'a pu faire Lorraine dans la matière. Donc, je résume un peu, si j'ai bien compris, on a trois niveaux de disparition, on a effacé les traces visibles, demandé la suppression proactive des données, et enfin, casser tous les liens avec son identité réelle.
Oui.
Mais si on veut disparaître totalement, quels sont les moyens les plus poussés qu'une personne peut utiliser, selon toi ?
Oui, eh bien, c'est là qu'on entre en réalité dans ce qu'on appelle la disparition active, qu'on peut aussi appeler le tueur à gages numérique, parce que, au-delà des démarches classiques, il existe des techniques bien plus sophistiquées utilisées par ceux qui veulent s'effacer définitivement. Aujourd'hui, ton identité numérique, elle n'est pas seulement sur Google, elle n'est pas seulement sur LinkedIn, elle est stockée dans des dizaines, voire des centaines de bases de données. Les assurances, les banques, les compagnies de téléphone, les sites e-commerce, il faut savoir que toutes ces entreprises revendent nos données personnelles à des data brokers qui les agrègent et les revendent à leur tour.
Ouais, une sorte de cercle pas du tout vertueux pour le coup, quoi.
Oui, on peut dire ça. Et c'est là que ça devient compliqué. Ces bases de données, elles sont souvent impossibles à purger complètement. On peut envoyer des demandes de suppression, mais en réalité, elles sont dupliquées, revendues, stockées sur des serveurs partout dans le monde. Exemple tout simple, c'est un peu comme essayer d'effacer une photo devenue virale sur Internet. Tu peux supprimer l'original, tu peux le faire. Mais il y aura toujours des copies ailleurs, sans parler de l'effet stressant. Moi, j'ai eu le cas où un chef d'entreprise, un CEO, il a tenté de disparaître en 2020 après un scandale au Royaume-Uni. Il a payé une entreprise spécialisée qui a envoyé plus de 200 demandes de suppression à divers services, plus de 200. Mais 6 mois plus tard, ces informations figuraient toujours sur des bases commerciales qui étaient vendues sur le Darknet. Il a fini par devoir changer de nom légalement.
Ah ouais, c'est vraiment extrême pour le coup.
Oui, c'est vrai, mais quand tu n'as pas le choix, t'es poussé vers ce genre d'extrémité. Sinon, on a aussi un autre levier très puissant, pour le coup, c'est l'intoxication de données. Je m'explique. Plutôt que d'essayer d'effacer toutes leurs traces, certains préfèrent créer du bruit pour brouiller les pistes. C'est une technique que les criminels utilisent parfois. Ils inondent Internet de faux profils, de faux articles, de fausses informations, jusqu'à ce qu'en réalité, leur véritable identité soit pratiquement impossible à retrouver. Nous, à l'agence, on a eu récemment un homme accusé de fraude aux États-Unis. Il a réussi à nommer son identité sous des centaines de faux profils en ligne. Je pense qu'il a dû faire appel à un prestataire hein, qui a créé des dizaines d'homonymes avec des CV fictifs, des articles bidons, des comptes sociaux actifs. Et quand on tape son nom sur Google, on tombe sur des dizaines de personnes différentes, hein, ce qui rend effectivement derrière les recherches manuelles très compliquées. Autre variant de cette méthode, en parlant de ça, on peut aussi utiliser des techniques de pseudonyme évolutif. Donc plutôt que de supprimer l'identité du client, tu as des gens qui peuvent te créer un nouveau personnage en ligne, hein, littéralement, avec une activité différente, des contrats fictifs, des interactions crédibles. Et l'idée, c'est qu'avec le temps, cette nouvelle identité va remplacer progressivement l'ancienne dans les résultats de recherche.
Mais là, bah, ça suppose quand même un minimum de préparation en amont, je pense, non ? En tout cas, il faut avoir le temps de le faire.
C'est vrai, mais alors tu n'imagines pas le nombre de personnes qui organisent patiemment leur disparition en amont. Et ensuite, même là, c'est pas forcément gagné, j'ai envie de dire, puisque l'un des aspects les plus négligés quand on parle de disparition numérique, c'est l'empreinte biométrique et comportementale. Pour l'expliquer simplement, c'est pas seulement ton nom qui te rend traçable, c'est aussi ton comportement, ta façon d'écrire, de parler, voire même de te déplacer en réalité.
Donc si je comprends bien, nos habitudes, notre comportement peuvent nous trahir.
Oui, oui, c'est bien ça. Alors, déjà, pour commencer, tu as des moteurs de recherche, hein, comme PMIZE, qui peuvent identifier une personne sur une simple photo postée quelque part sur le web. C'est pour ça que certaines personnes qui veulent disparaître modifient même légèrement leur apparence. Ça peut être une coupe de cheveux radicale, se tourner les cheveux par exemple, porter des lunettes, grossir ou maigrir. Ce sont des changements qui suffisent, hein, encore aujourd'hui. On verra demain, hein, voir ce que ça donne, mais en tout cas, aujourd'hui, ça suffit à tromper les algorithmes. Ensuite, on a des logiciels qui peuvent reconnaître une personne rien qu'en analysant la façon dont elle écrit. C'est une technique qui est utilisée notamment par des experts en cybersécu, en criminologie. On voit souvent ça à la télé de toute façon. Hein. Et pour contrer ça, certains utilisent des outils de réécriture automatique ou changent volontairement leur manière de formuler leurs phrases en ligne.
Waouh, ça va tellement loin. Faut penser à tout en fait.
Oui, exactement. Et bien, c'est précisément pour ça que c'est aussi dur de disparaître. Et enfin, dernière chose dont je voulais parler, hein, pour les empreintes laissées derrière soi, histoire de conclure là-dessus, il faut que l'on cite toutes ces applications mobiles qui enregistrent des tonnes de données sur nos habitudes de déplacement. Là, je te renvoie au fameux scandale Strava. Cette application de running, là, hein, où les gardes du corps d'Emmanuel Macron ont trahi ses déplacements. Donc, en réalité, ceux qui veulent vraiment disparaître, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils abandonnent leur smartphone, en plus, hein, pour utiliser uniquement des dumbphones sans connexion Internet.
Bah, je suppose qu'au-delà d'Internet, il y a aussi la vraie vie. Enfin, j'imagine que changer d'adresse, par exemple, ça ne suffit pas.
Exact. Et certains vont jusqu'à créer des fausses adresses, des comptes bancaires au nom d'une autre personne, ou utilisent des prête-noms. Là aussi, je peux te prendre un exemple, hein, avec un entrepreneur en fuite qui était parti avec la caisse de sa boîte, qu'on a retrouvée depuis, mais qui a utilisé un prête-nom pour signer tous ses contrats de location, pour ouvrir des comptes bancaires et payer ses factures. Alors, officiellement, il n'existait plus. Mais dans les faits, il vivait en toute tranquillité grâce à un petit réseau de complices. Donc le vrai challenge, c'est qu'on vit dans une époque où tout est tracé. Même un simple paiement par carte bancaire, hein, permet de déterminer ta position en quelques minutes. Donc, ceux qui disparaissent vraiment, totalement, ils coupent complètement avec le système bancaire et doivent payer en cash ou en crypto. Ils n'ont pas le choix.
Ok, alors, je résume encore tout ce qu'on vient de dire. En gros, il n'y a vraiment que les plus motivés qui disparaissent totalement d'Internet avec bah, tout ce qu'on vient de voir, hein, tout ce que ça comporte de désagréments, on va dire.
Oui.
Parce que, alors, payer en cash, avoir un dumbphone, etc., faire attention à comment on écrit, à quoi on ressemble, Là, on parle vraiment pas de trucs anodins, là. Ça doit être super lourd à porter au quotidien.
Oui.
Donc, question qui me vient, là. Question à 5 000 $, on va l'appeler comme ça. Comment est-ce que Lauren Hurst a pu disparaître aussi proprement et aussi vite ?
Eh bien, je pense que déjà, on peut s'accorder sur le fait que c'est une disparition très bien orchestrée. C'est pas une adolescente de 13 ans qui aurait pu faire ça seule. On est probablement face à un effacement coordonné, mené par un ou des prestataires ayant les bonnes ressources et sans doute aussi, hein, si utile de le préciser, avec les bons contacts. Donc, on reprend les trois niveaux de disparition dont on a parlé. On voit bien que dans le cas de Lauren, tout a été géré simultanément avec une efficacité qui dépasse largement la simple suppression de compte. Hein. Ça laisse penser que oui, ce n'est pas une décision impulsive, une simple volonté de passer à autre chose. On peut dire vraiment que c'était planifié.
Longtemps à l'avance, tu crois ?
Peut-être, ou alors ça a vite réagi en face, hein, difficile à dire là-dessus. Mais je pense que la vraie question, ce n'est pas celle-là. La vraie question, c'est qui avait intérêt à la faire disparaître, hein. parce qu'une opération de cette ampleur, ça se fait pas sans raison. Et si quelqu'un investit du temps et de l'argent pour tout effacer, c'est qu'il y avait effectivement quelque chose à cacher.
Quelque chose à cacher. Intéressant.
Oui, alors, tel que tu m'as décrit le contexte, l'histoire, je dirais que la première hypothèse, c'est que Lorraine elle-même, ou plutôt certainement ses parents, ont pris la décision de tout effacer pour la protéger. Lorraine était visiblement très jeune quand elle a explosé sur LinkedIn. On sait qu'a priori, elle était au cœur d'un projet monté par des adultes, mais qu'elle était aussi le visage de cette entreprise dont tu m'as parlé. Alors peut-être qu'à un moment, elle a voulu s'arrêter, mais qu'elle n'avait plus de contrôle là-dessus. C'est pas rare de voir de très jeunes influenceurs ou des entrepreneurs qui se retrouvent dépassés par l'ampleur de ce qu'ils ont construit, ou alors de ce qu'on a construit autour d'eux. Dans certains cas, la pression, elle devient vraiment trop forte, et il n'y a qu'une solution, c'est tout couper. Je pense à un cas là, un cas sur lequel j'étais tombé, celui de Sena O'Neill. C'est une influenceuse australienne, pardon, qui a brusquement quitté les réseaux sociaux en dénonçant l'illusion qu'elle y a entretenu dessus. Elle avait expliqué de souvenir que tout était scénarisé, que derrière chaque poste, il y avait une mise en scène qui la rendait malheureuse, et la situation était devenue inconfortable pour elle. Donc, si on met cette hypothèse en parallèle avec le scandale qui a éclaté avec Lorraine, il est possible que ses parents aient voulu l'extraire de cette situation avant que les choses ne deviennent trop graves. C'est une possibilité. Son agence a été accusée de malfaçon, je ne sais plus exactement comment tu disais.
Disons que les livrables, ils n'étaient vraiment pas à la hauteur, quoi.
Oui, donc la crédibilité de Lorraine a été pulvérisée du jour au lendemain. Alors peut-être qu'ils ont pris peur en voyant la situation déraper, qu'ils ont préféré tout supprimer avant que ça ne devienne ou que ça prenne une tournure plus juridique. Et donc, si cette décision vient bien de sa famille, alors ils ont probablement fait appel à une société spécialisée. Ces sociétés-là, elles te facturent souvent plusieurs dizaines de milliers d'euros pour effacer un maximum de traces en ligne. Et elles procèdent, oui, il y a des demandes de suppression massive. Elles vont inonder Google et les plateformes concernées de requêtes légales. Elles vont passer au crible chaque mention de la personne pour la faire disparaître. Mais le problème avec cette hypothèse, c'est qu'il reste très peu de traces. Et en général, voilà, même lorsqu'on essaie de disparaître, il reste toujours des miettes de pain, pour faire une petite analogie avec le petit poussé. On l'a vu. Mais là, tout a été effacé proprement et rapidement. Ce qui laisse finalement penser que l'effort était, bien plus structuré que de simples démarches individuelles.
Ok, donc est-ce que tu crois que c'est un effacement orchestré par les véritables fondateurs de l'agence de Lorraine, NextGen ?
Là, on rentre dans une autre logique, celle du damage control. L'idée de sa disparition ici, c'était pas pour protéger Lorraine, mais pour protéger ceux qui étaient vraiment derrière cette agence. Là aussi, si on regarde la manière dont l'agence fonctionnait, ce que tu m'en as dit, on voit qu'elle n'était pas bâtie pour durer. C'est un modèle fragile qui reposait sur une illusion, celle d'une gamine prétendument prodige, capable de conseiller des CEO. Est-ce que c'était une arnaque ? Difficile à dire. Mais en tout cas, c'était un modèle a priori non viable. Donc, si NextGen avait des clients mécontents, et a priori, de ce que tu m'en as dit, on sait qu'il y en a eu, alors, les créateurs de l'agence avaient tout intérêt à faire disparaître toute trace du projet avant que ça ne dégénère en poursuite judiciaire. En droit commercial, il est souvent plus simple de faire disparaître une entreprise en ligne que de se justifier en cas de litige. Ça, faut le savoir. Donc, quant aux fondateurs de NextGen, on sait que oui, ils ont joué un rôle clé dans son montage, mais a priori, on a très peu d'informations sur ce qu'ils sont devenus après la chute de cette agence. Donc, peut-être qu'ils ont simplement décidé de clore définitivement ce chapitre en effaçant tout ce qui pouvait les relier à Lorraine. Elle était la vitrine du projet, elle était aussi la cible idéale pour concentrer toute la responsabilité. Et en la faisant disparaître du web, ils faisaient aussi disparaître l'histoire elle-même, quelque part. Ce qui est troublant, par contre, je dirais, c'est que même des articles de presse qui n'avaient rien de compromettant ont été supprimés. Ça montre bien qu'il y a eu, à un moment donné, une volonté globale d'effacer la mémoire de cette histoire et pas seulement de faire disparaître Lorraine.
Ok, alors imaginons, projetons-nous sur des hypothèses peut-être plus bizarres. Est-ce qu'il est possible que la disparition de Lorraine soit le symptôme, d'un enjeu encore plus large ?
Oui.
En fait, qui aurait eu un intérêt dans cette disparition ?
Oui, là, plusieurs pistes sont possibles. NextGen a probablement eu des financements. Et si un investisseur influent s'est retrouvé mêlé à cette histoire et a voulu éviter d'être éclaboussé, il aurait très bien pu activer ses contacts pour tout effacer. Autre piste, si l'agence a travaillé avec des entreprises reconnues, ces entreprises auraient pu faire pression également pour que leur nom ne soit jamais lié à l'affaire. Et puis, on a peut-être eu aussi un nettoyage préventif. Tu as certaines entreprises spécialisées dans la communication de crise qui ont pour mission justement d'éteindre des affaires avant qu'elles prennent de l'ampleur. Donc, elles travaillent souvent avec des médias, des plateformes, des réseaux d'influence pour effacer tout contenu négatif et s'assurer que l'histoire ne réapparaisse jamais.
Ok, donc là, on a plusieurs pistes, mais vu l'ampleur de la disparition, il y a une chose de certaine. Quelqu'un a déployé des ressources très importantes, visiblement, pour faire disparaître Lauren Hurst. Et généralement, quand on met autant d'efforts dans un effacement, c'est qu'il y a quelque chose à cacher.
Oui.
Mais là, on dépasse le simple scandale d'une entreprise qui a mal fait son travail, en fait.
Eh bien, écoute, quand on en est à ce niveau de disparition, de mobilisation, de ressources et d'efforts, il y avait probablement quelque chose de gros à cacher. Oui, c'est très possible.
Quand j'ai commencé cette enquête, tout ce que j'avais, c'était une anecdote intrigante. Une ado australienne qui aurait généré $1 million sur LinkedIn avant de disparaître totalement. Un scénario presque trop gros pour être vrai. Et pourtant, on a vu que tout ça, c'était réel. Dès lors, je me suis posé une question simple. Qui était Lauren Hurst et pourquoi a-t-elle disparu? Aujourd'hui, après plusieurs semaines de recherche, d'entretien et d'analyse, j'ai une vision bien plus claire sur cette question. Et je pense que vous aussi. Mais cette clarté, paradoxalement, ne fait que rendre l'affaire encore plus opaque. Déjà, je voudrais revenir un instant sur Gavin Matthews et Sophia Ling. On en a assez peu parlé, alors qu'ils semblent avoir joué un rôle crucial dans l'affaire en tant que fondateurs de NextGen. Mais c'est pour une raison très simple. J'ai très peu d'éléments sur eux. Contrairement à Lauren, qui était en première ligne sur LinkedIn, eux sont restés dans l'ombre tout le long de l'existence de NextGen. Leur présence en ligne est ultra minimale, et même si leur profil LinkedIn existe toujours, ils sont d'une sobriété presque suspecte. Gavin Matthews se présente comme un consultant en stratégie. Sophia Ling, elle, affiche une carrière dans la gestion de contenu et le personal branding. Mais ce qui est frappant, c'est le manque total d'informations sur leurs expériences passées. On n'a aucune mention de NextGen ou d'autres entreprises, on n'a aucun poste, aucun engagement sur des publications, on n'a rien qui ne permet de confirmer leur implication dans cette agence. Si j'étais parano, ça me donnerait quand même l'impression qu'ils ont pris grand soin de laisser le moins de traces possible. J'ai quand même essayé d'y aller au culot et j'ai tenté de les contacter. D'abord en leur envoyant des invitations, qu'ils n'ont pas acceptées, puisqu'ils m'ont laissé sécher, puis en dénichant un mail pro pour Gavin, mais pas de réponse malgré pas mal de relances. C'était le silence total. Malheureusement, j'ai pas été capable de trouver d'autres infos utiles sur eux. Et au point où on en est, on peut même se demander si c'était bien eux, les véritables fondateurs de NextGen, ou si eux-mêmes n'étaient que des exécutants, recrutés par des figures encore plus influentes qu'on n'a pas encore identifiées. Pourquoi pas après tout, on sait que l'aventure Lauren Hurst sur LinkedIn ressemblait déjà beaucoup à un jeu de poupées russes. Mais bon, ça, je n'avais aucun moyen de le vérifier. Pour le moment, je vous propose de reprendre de manière factuelle tout ce que l'on sait jusqu'à maintenant. Lauren Hurst a bien existé, son activité a été documentée par plusieurs sources, des articles de presse au poste LinkedIn. Elle a réellement été perçue comme une entrepreneuse à succès, vu son audience sur LinkedIn et le fait qu'elle était citée comme un exemple de réussite précoce dans le personal branding. Son agence NextGen a bien existé, parce qu'on sait que plusieurs clients ont payé des sommes conséquentes pour ses services et que certains ont laissé des témoignages accablants sur la nature du business. On sait également qu'un scandale a précipité sa chute. L'affaire James Foster a révélé que NextGen recyclait les mêmes contenus pour différents clients et la supercherie, là, elle était difficile à justifier. Et enfin, Lauren n'a pas seulement quitté LinkedIn, elle a été méthodiquement effacée. Son compte, ses posts, les articles de presse, même les archives digitales ont été purgés. C'est bien au-delà d'une simple suppression de profil. On l'a vu, on l'a répété. Mais justement, malgré tout ce qu'on vient de voir avec Pascal, une question persiste. Pourquoi a-t-elle disparu aussi proprement, aussi vite et avec une telle efficacité? C'était quoi ce truc que NextGen essayait de cacher? Je vous propose de reprendre les hypothèses vues avec Pascal et de les passer ensemble au crible. Hypothèse numéro 1, Lauren a fui la controverse. C'est l'explication la plus simple et c'est donc la plus tentante. Lauren Hurst a volontairement choisi de disparaître. Après le scandale NextGen, après l'énorme shitstorm qu'elle a subi, elle aurait décidé de couper les ponts totalement et de reprendre son ancienne vie. Donc, quelques indices en faveur de cette hypothèse. Déjà, après le bad buzz déclenché par James Foster, Lorraine s'est retrouvée au centre d'accusations qui ont mis en lumière les pratiques douteuses de son agence. Elle a tenté un damage control maladroit avec un message qui semblait écrit par quelqu'un d'autre. Si elle était réellement l'image publique d'un projet qui l'a dépassé, elle a aussi peut-être voulu se retirer pour de bon. La suppression de ses comptes et de ses traces numériques, ça pourrait être le résultat d'une plainte auprès des plateformes. Et elle était très jeune, sans doute trop jeune pour gérer une telle pression. Mais il y a des trucs qui collent pas dans cette hypothèse. Déjà, sa disparition est trop rapide et trop radicale. Il aurait fallu que Lorraine ou ses parents payent quelqu'un des dizaines de milliers d'euros et c'est pas rien. Surtout, c'est hors norme comme disparition par rapport à cette shitstorm. C'est trop disproportionné. Je sais pas vous, mais c'est quand même beaucoup trop gros comme réaction. Ensuite, tous les articles de presse qui parlaient d'elle, ils ont disparu. Or, les médias ne retirent pas des articles juste parce qu'une personne veut qu'on l'oublie. Ça marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait une pression extérieure ou alors une plainte officielle. NextGen a été effacé aussi. Même en cas de scandale, une entreprise laisse des traces légales. Or ici, il n'y avait quasiment plus rien à récolter là-dessus. Bref, une disparition volontaire, ça reste une possibilité, mais très franchement, ça explique pas l'ampleur du nettoyage. Je pense pas que ça soit l'explication, l'hypothèse la plus solide. Donc, on poursuit. Hypothèse numéro 2, quelqu'un a orchestré sa disparition. Et si Lorraine n'avait pas eu le choix ? Et si ce n'était pas elle qui avait décidé tout arrêter, mais quelqu'un d'autre qui voulait la faire disparaître du paysage numérique ? Alors, pour les indices en faveur de cette hypothèse, on peut citer pêle-mêle l'effacement des preuves. C'est pas juste une suppression de compte, hein, c'est un nettoyage méthodique, on l'a dit. Le mutisme des anciens proches et collaborateurs. Absolument plus personne ne parle d'elle, c'est franchement curieux. Et enfin, NextGen semble avoir été une façade. L'entreprise a disparu de toutes les bases de données officielles. Pour quelles raisons ? Comment c'est possible ? Qui peut avoir assez d'influence pour ce genre de truc ? Mais là aussi, il y a des choses qui collent pas. Qui aurait eu intérêt à effacer Lorraine totalement ? NextGen pour éviter des poursuites ? Ses propres proches pour la protéger ? C'est trop radical encore une fois. Normalement, si on cherche juste à limiter les dégâts après un bad buzz, on fait pas disparaître quelqu'un, on contrôle juste le discours public. Et enfin, dernier élément, si Lorraine était un simple visage pour NextGen, pourquoi effacer aussi ses interviews, ses traces médiatiques, ses clients ? Malgré tout, l'hypothèse d'une disparition orchestrée, ça semble plausible. Mais ça soulève cette même question essentielle: qui a orchestré ce nettoyage et pourquoi ? Enfin, dernière hypothèse, NextGen n'a jamais été ce qu'il prétendait être. Et si la clé de l'énigme, c'était pas Lorraine elle-même, mais NextGen ? L'agence s'est présentée comme une entreprise de personal branding, mais tout ce qu'on a découvert, ça laisse penser qu'elle était peut-être bien plus que ça. On sait que leur business était bancal, que NextGen recyclait du contenu à la chaîne et livrait des prestas médiocres, voire frauduleuses. On sait que leur modèle reposait sur du vent, les témoignages des clients qui montrent que la valeur ajoutée de NextGen, elle était quasi nulle. Alors comment cette boîte a-t-elle pu se vendre aussi bien ? Et on connaît aussi les figures clés de NextGen, qui sont ultra suspectes. Gavin Matthews, Sophia Lings, qui existent, on va dire, avec une présence minimale. Et enfin, on a un effort coordonné pour sulfater tout lien avec l'agence, en mode « on brûle tout par le feu ». Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de napalm déversé sur cette histoire ? Là encore, pour finir, hein, dans cette hypothèse, il y a des choses qui collent pas vraiment. Bah, déjà, si NextGen était juste une arnaque marketing, pourquoi faire disparaître Lorraine avec autant de minutie ? Pourquoi aucune plainte publique ou procédure légale n'a émergé ? Et une fraude enfin de cette ampleur aurait dû laisser des victimes. Or, à part Foster et quelques clients mécontents, personne ne parle vraiment de NextGen aujourd'hui. Bref, conclusion de tout ça, oui, NextGen cache probablement quelque chose de bien plus gros que du simple coaching LinkedIn bidon, mais quoi exactement ? Eh ben, on se heurte toujours à la même sempiternelle question. Bon, vous l'aurez compris, j'étais arrivé à un point mort. J'avais entre les mains des dizaines de fragments qui, mis bout à bout, racontaient une histoire dérangeante. Rémi, Charlotte, Sophie, Pascal, tout le monde reconnaissait que l'histoire était louche. Mais j'avais creusé toutes les pistes disponibles. J'avais visiblement fouillé tout ce qui n'avait pas encore disparu. J'avais passé tout au peigne fin, mais à un moment donné, on atteint les limites du savoir public. Et c'est là que j'ai dû me poser la question qui hante tous les enquêteurs, je pense.
Quand on n'a plus rien à fouiller, vers qui ou quoi on se tourne ?
J'avais un dernier joker en main, Matt Newson. Matt, si vous vous en rappelez, c'est ce journaliste indépendant australien qui tient le site d'archives sur Lorraine. C'est lui et quelques autres contributeurs anonymes qui ont sauvegardé la quasi-totalité des contenus disparus. Les posts, les témoignages clients, les pubs de NextGen, etc. Et pourtant, jusque-là, je n'avais jamais pu lui parler. J'avais envoyé plusieurs mails sans aucune réponse. Je m'étais présenté comme un gars qui était tombé par hasard sur Lauren Hurst, qui avait commencé à enquêter à son sujet, et que je serais ravi de pouvoir échanger avec lui là-dessus s'il avait un peu de temps à me consacrer. Mais, bref, j'ai eu aucune réponse, absolument rien. Je crois que j'ai relancé une bonne dizaine de fois, j'avoue que ça sentait un peu le mec désespéré parce qu'il n'a plus aucune piste. Mais, il y a quelques jours, j'ai enfin reçu une réponse. Matt Newson m'avait répondu. Je me souviens encore du moment où j'ai ouvert le mail. C'était bref, très très court. Un simple
« Salut, j'ai vu tes messages. Oui, j'ai quelques éléments qui pourraient t'intéresser. Dispo pour échanger par mail, mais pas d'appel. »
Pourquoi pas d'appel ? Trop sensible ? Pas envie d'être enregistré ? J'ai répondu immédiatement. On a commencé à s'échanger des mails, et très vite, je me suis rendu compte d'un sacré truc. Matt semblait avoir des éléments que personne d'autre n'avait et qui n'étaient pas mis en ligne sur son site. Dès nos premiers échanges, il m'a mis en garde que l'affaire Lauren Hurst, c'était pas juste une histoire de bad buzz sur LinkedIn, que c'était beaucoup plus compliqué que ça et que c'est précisément pourquoi il devait faire attention de son côté. Faire attention. Quand j'ai lu cette phrase dans un mail, j'ai senti quand même un petit frisson me parcourir. Pourquoi Matt se méfie autant ? Pourquoi est-ce qu'il refuse tout contact direct ? Qu'est-ce qu'il sait que nous ignorons encore ? Et surtout, qu'est-ce qu'a essayé de cacher NextGen ? La vérité sur Lauren Hurst n'est peut-être pas aussi simple que ce qu'on imaginait. Si cet épisode vous a plu et que, comme moi, vous sentez que l'affaire Lauren Hurst cache encore quelque chose d'énorme, n'hésitez pas à partager et à liker le podcast. On arrive au bout de cette enquête et je vous promets que le prochain épisode sera le plus explosif de tous. Que reste-t-il de Lauren Hurst aujourd'hui ? Qui a vraiment tiré les ficelles de cette histoire ? Et surtout, pourquoi cette disparition a-t-elle été orchestrée avec une telle précision ? On va enfin le découvrir ensemble.
Merci également aux sponsors de ce podcast, Astral Studio. Si vous êtes une entreprise B2B et que vous avez besoin de contenu à impact qui tonne et qui détonne parmi vos concurrents, le tout sous un format d'abonnement illimité, n'hésitez pas à faire appel à eux, le lien est dans la description.
Merci de m'avoir écouté et rendez-vous très bientôt pour le dernier épisode du Mystère Lauren Hurst.